Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Il y a plein de moments où je me dis c'est complètement dingue de faire ce métier-là.
Marc-André Grondin roule sa bosse comme comédien depuis près de 35 ans. Ses premières armes se font en publicité dans une réclame pour les jus d'orange Minute Maid et par la suite, en 1991, lors d'une apparition sur grand écran dans le film Néligan. Il a fait la rencontre du réalisateur Jean-Marc Vallée lors du tournage du court-métrage « Les fleurs magiques », ce qui l'amène à incarner le rôle de Zach dans le film « Crazy » en 2005, le film chouchou des Québécois qui a voyagé partout à travers le monde.
Deux sujets étaient devenus tabous à la maison, moi et Raymond.
Ça rend baveux manger des graines, hein?
Hé, hey, là, ça va faire, là!
Marc-André fait par la suite un saut en France et obtient le César du meilleur espoir masculin pour le film « Le premier jour du reste de ta vie » de Rémi Besançon.
Le César du meilleur espoir masculin est attribué à Marc-André Grondin dans « Le premier jour du reste de ta vie ».
Après avoir enchaîné les rôles de l'autre côté de l'Atlantique, il travaille au Québec et marque notre cinéma dans des productions comme « Goon 1 et 2 »,« Vic et Flo ont vu un ours », Tudor Nicole, L'Affaire du Mont, Jusqu'au déclin, Les Affamés et tout récemment, Richelieu. Bonjour Marc-André Grondin.
Bonjour.
Comment tu vois ta carrière?
Ben, je calculais ça puis je me disais même, je pense même, c'est quasiment 37 ans.
C'est 37, le chiffre
ben,
exact?
J'ai commencé à... Je pense que j'ai eu la pub de Minute Maid, j'avais tout juste 3 ans, ou j'allais avoir 3 ans. C'était comme...
Genre tu dans comptes dans tes années de carrière?
Ben oui, ben parce que ça a quand même pas enchaîné. Ben j'ai fait beaucoup de télé. Tu sais, j'ai fait Néligan, oui. Bon, c'était...
Mais il y a eu du
voix de tata. Principale quasiment, là. Mais, mais tu sais, j'ai commencé dans un téléroman à Radio-Canada, dans Un signe de feu. J'avais 4 ans et demi. Fait que j'ai comme pas arrêté. Mais oui, ça fait longtemps. Ça fait quand même longtemps. J'attends que, je sais pas, l'UDA me donne une montre là, ou quelque chose là, pour fêter. Ouais, c'est ça.
Mais considères-tu que c'est un métier que tu as choisi de devenir comédien? Parce que, étant donné que tu as commencé quand tu étais tout petit, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un naturel qui s'est tracé tout au long de ta vie. As-tu l'impression d'avoir fait le choix délibéré d'être comédien?
Non. D'une certaine façon, non, parce que je pense que je réalisais pas aussi ce que c'était. J'avais du fun à faire ça. Mais la vraie réponse, ce serait oui, parce que tu sais, il y a eu plein de moments dans ma vie où tu sais, je voulais jouer au hockey quand j'étais petit, puis ma mère, elle me disait, mais tu peux pas faire du téléroman 4 jours semaine, puis jouer au hockey aussi, c'est trop, fait, faut que tu choisisses. T'sais. Fait que j'ai continué toujours de choisir de jouer. Parce que c'est ça que j'aimais faire. C'est pas mal juste ça que je connaissais aussi. Puis plus tard aussi, tu sais, je pense qu'à plein de moments de ma vie, puis encore toutes les années, j'ai l'impression qu'à chaque projet que je prends, je me dis, je choisis de continuer ça au lieu de faire autre chose, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Puis là, ben, depuis quelques années, ben, j'essaie de faire autre chose que juste jouer.
De produire, entre autres.
De produire, de faire un peu de radio, de diversifier un peu mes jobs par rapport à ce que j'aime, moi, dans la vie, puis ce que j'ai envie de faire. Puis, mais tu sais, j'ai pas besoin de jouer. C'est pas un besoin viscéral. C'est pas une façon de m'exprimer le jeu. Mais c'est ma porte d'entrée pour être sur un plateau. Puis c'est là que je suis heureux. J'aime ça être sur un plateau de tournage. J'aime ça l'équipe. J'aime le sentiment. J'aime le stress. J'aime le chiolage, le patinage. J'aime regarder les autres travailler, apprendre de ce qu'ils font. Tout ça, toute l'intensité d'un tournage, je le vis surtout en étant acteur. T'sais, en étant producteur, oui, tu rentres, tu sors, mais c'est pas le même feeling. Fait que du jour au lendemain, si je jouais plus, je m'ennuierais pas tant de jouer des personnages, mais je m'ennuierais beaucoup, beaucoup d'être sur un plateau.
Ça vient chercher quoi chez toi de jouer, justement? Quand tu dis, je m'en ennuierais pas trop, est-ce que c'est une zone inconfortable?
T'sais, récemment, j'ai fait, en début d'année, j'ai fait un film qui s'appelle Le Successeur. Il y a plein de scènes vraiment difficiles à faire et tout ça. Puis, tu sais, je me disais pendant le tournage, après des takes, des fois, je me disais, qu'est-ce que je fais? C'est complètement absurde comme métier quand même. Là. Je me mets dans des états. Là. Je me brûle, on tourne de nuit. J'arrive à la maison, je morvais toute la nuit à brailler.
Je suis un designer de mode, en plus.
Des crises
j'aurais
de
imaginé ça de ma vie.
Des crises de panique, de, tu sais. Fait que tu sais, je me dis, on se met dans des drôles d'états, En même temps, c'est une chance extraordinaire de faire ce métier-là parce que je me verrais pas faire un métier de 9 à 5, une routine. Je pense que je trouverais mon plaisir dans n'importe quoi éventuellement dans la vie, là. Mais tu sais, il y a plein de moments où je me dis c'est complètement dingue de faire ce métier-là. Puis en même temps, je me dis c'est complètement dingue que je puisse faire ce métier-là et d'avoir la chance de faire ce job-là. Puis tu sais, sur les plateaux, il y a plein d'autres corps de métier que j'adore puis que j'aurais du plaisir à faire. Mais il y a quand même un confort quand t'es acteur. T'as un confort qu'on crée autour de toi. On te protège beaucoup parce que justement, tu te mets dans des situations très vulnérables. Tu peux te mettre tout nu en train de brailler devant tout le monde. Puis,
As-tu plus de facilité à pleurer? Parce que tu m'avais déjà dit...
Ouais, tout nu.
Non, mais tu m'avais déjà dit, moi, pleurer, ça me demande tout mon petit change. C'est tough. Quand je suis partie, faut pas qu'il m'arrête. Je peux pleurer pendant 2 heures de temps. pour garder cette émotion-là, parce que dans la vie, je pleure pas facilement.
Oui, ben je pleure plus facilement en vieillissant, là. En fait, je pleure pas de tristesse, je suis ému plus facilement, là.
C'est les enfants qui ont fait ça?
J'imagine, puis les expériences de vie, mais oui, je pense les enfants, là. Puis tu sais, c'est sûr, les expériences de vie. Je pense que, à un moment donné, t'emmagasines du matériel de vie, puis d'expérience, puis... J'ose croire que tu développes plus d'empathie en vieillissant aussi parce qu'il y a plus de choses qui te parlent. Puis, mais tu sais, je regarde Révolution, puis j'ai les yeux pleins d'eau, genre à moitié des portraits qu'ils font, là, tu sais. mais oui, pour moi, c'est quand même difficile de pleurer. Je suis pas quelqu'un qui pleure facilement, là. Je suis toujours très impressionné par quelqu'un qui a la larme facile dans ce métier-là. Je pense pas que c'est ça qui fait de toi un bon acteur ou une bonne actrice nécessairement, mais c'est un plus. C'est vraiment un outil vraiment pratique à avoir quand tu peux aller le chercher facilement. Tu sais, je peux quand même... Je pense que dans les dernières années, quand je réussis à y aller, j'y vais de façon plus naturelle puis plus profonde qu'avant. Mais ça marche pas tout le temps aussi facilement, tu sais. Je pense que je peux être ému puis je pense que je peux amener cette émotion-là, mais vraiment pleurer, là, tu sais, je l'ai fait récemment... pleurer sans aucun contrôle, là, comme s'il n'y avait personne, puis en choc. Là. Puis ça vient quand même shaky physiquement des affaires. J'ai vécu dans la dernière année des moments où... Tu sais, moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais capable de faire ce métier-là, mais je n'incarnais pas l'acteur, là, tu sais. Puis peut-être un petit sentiment d'imposteur, je ne sais pas, là, mais j'ai fait des scènes où après, j'avais une réaction physique, j'avais un shake où j'avais... Ben, tu sais, j'étais pas... continuer à faire des jokes, là, c'est pas... Mais j'avais quand même une réaction physique. J'avais comme bluffé un peu mon corps à le mettre dans un choc. Puis psychologiquement, je peux sortir de ça très facilement, mais il y avait quand même... je trouvais que j'avais touché à quelque chose que j'avais pas touché avant, tu sais. Ce qui est quand même le fun après 37 ans de continuer à découvrir ta job.
Oui, bien, considères-tu que t'es un meilleur acteur d'année en année, là? Au bout de 37 ans, est-ce que tu penses que t'es un meilleur comédien que... Par exemple, il y a 10-15 ans?
Oui, parce que je pense que je me connais mieux. Mais c'est souvent une question de choix aussi, tu sais. Puis d'opportunités qui se présentent à toi. Fait que, tu sais, je pense que j'ai eu la chance dans les 15 dernières années d'avoir vraiment de me faire offrir des projets vraiment différents, puis des chances de créer des rôles de composition. Puis je pense que j'ai cette volonté-là aussi, des fois, d'essayer d'aller loin de moi. Même si sur papier, c'est pas nécessairement ça. T'sais, dans Richelieu, j'ai ajouté des affaires, mais t'sais, j'aurais pu aussi être plus proche de moi dans ce personnage-là, puis ça aurait pas été dramatique. Là, mais j'aime ça, ajouter des petites affaires, prendre des risques, puis faire les bons choix. Il y a plein de choses que je refuse aussi, pas parce que nécessairement c'est pas bon, mais parce que j'ai l'impression que c'est pas pour moi.
Fait que tu considères que c'est une bonne chose que t'aies refusé un film comme Poltergeist et que t'aies accepté Richelieu?
Hey, mon Dieu, j'ai vraiment failli mettre... J'avais oublié le titre, mais j'avais oublié un peu... Mon Dieu, Poltergeist.
On est tombé là-dessus par hasard.
Oui, je pense que c'est un très bon choix d'accuser Poltergeist, mais en même temps, je l'ai jamais vu. Fait que... c'est juste que après Crazy, on m'a offert beaucoup de doublons de Zachary dans Crazy. On m'appelait beaucoup pour jouer des rôles dans des films où je devais jouer soit un homosexuel ou un truc d'époque, des années 70, en tout cas. Puis c'était un film français, je pense, et c'était l'histoire d'un fantôme gay des années 70. Là, je me suis dit, là, c'est tout dans le même projet. Tout ce que j'ai pas envie de refaire tout de suite est dans le même projet. Je pense que je l'avais lu, mais genre en diagonale. Okay. Je sais pas trop. Là, mais
tu sais, tu me l'expliques, puis je pense que je suis contente que t'aies pas fait un rôle.
Mais c'est fait le film, je pense. Ouais, ouais, je pense qu'il existe, là. Faudrait que j'aille checker ça.
Un soir.
Ben
mais,
ouais.
Mais c'est un casting. Après Crazy, t'as voulu vraiment casser de quoi, là? Tu voulais pas tomber dans les rôles de jeune premier.
Ça a été long avant que je trouve ma zone de confort dans la célébrité, dans un certain niveau de célébrité. Là. Regarde, même là, j'essaie de le dimmer un peu. Mais c'est ça. T'sais, je pense que Crazy, c'était tellement gros du jour au lendemain. Puis heureusement, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Là, que je me suis dit, là, tout le monde va attendre un autre Crazy pour mon prochain projet, puis ils vont tous être déçus. Fait que je vais essayer de faire de quoi qui est vraiment l'opposé. Pas un crowd pleaser, comme on dit, là, pas un film de famille, puis pas un film qui parle à tout le monde. Puis, fait qu'on m'a proposé La Belle Bête, qui était, écoute, un micro-budget. Là, je pense qu'on avait genre 1 million pour faire le film, là, qui est un très petit budget. Là, ça monte vite sur un plateau de tournage. C'est pas les cachets des gens, c'est juste le matériel, toutes les locations, puis... Fait que c'était adapté du roman de Marie-Claire Blais, relation quasi incestueuse avec de mon personnage avec sa mère. Écoute, j'ai passé 2 semaines du tournage dans des bobettes faussement souillées d'urine et de sel. Mon personnage a un certain retard de communication, de développement. En tout cas, c'est un film de genre.
Mais c'était pas Crazy.
C'était pas Crazy, fait que je me suis dit, là, je viens casser quand même cette image-là. Moi, on m'a collé une étiquette du jour au lendemain dans la vie, là, que j'étais un sex symbole, j'étais un beau gosse, un jeune premier, puis j'ai jamais été ça avant dans ma vie, tu sais. J'ai jamais été un beau gosse à l'école, j'ai jamais été... Tu sais, ça a jamais été ça, ma vie, fait que j'étais beaucoup en réactivité, en réaction contre ça, tu sais, puis...
Est-ce que ça aurait changé d'avoir eu des médias sociaux à l'époque de Crazy?
Ben, je pourrais me faire 50 000 piastres pour faire une pub de Crest, là. Genre me brosser les dents en faisant une story.
Ça aurait augmenté ta valeur, tu penses?
Ben oui, je pense que j'aurais, tu sais, l'attention aurait été encore plus grande parce que moi, à l'époque, quand Crazy est sorti, j'arrivais chez nous, puis c'est tout, là. J'arrivais chez nous, puis c'était fini, là, genre, tu sais, je pouvais marcher dans la rue puis voir ma face, à la limite, sur le cover du Voir ou du Ici, mais c'était tout. Il fallait genre dans un magasin, dans l'entrée, il y avait la pile de journaux, mais c'est tout, tu sais, fait que c'était pas aussi intense là, que ça aurait pu l'être maintenant, tu sais. Mais ça, c'est ça, j'ai quand même été beaucoup en réactivité contre ça, puis j'essayais de me faire rare aussi, puis j'étais pas à l'aise de parler de moi, j'avais pas envie de parler de moi, j'avais pas envie que le monde sache tout de ma vie, puis ça a été long avant de... Puis je me suis empêché de faire bien des affaires pendant bien des années aussi, tu sais.
Mais je te sens plus ouvert maintenant.
Oui, oui.
Il y a quelque chose de plus ouvert vers le monde. T'sais, au début, là, si on s'était parlé, il y a, je sais pas, moi, tout de suite après Crazy, quand moi, j'ai commencé à faire ce métier-là, j'aurais pu te dire que tu étais bête. Tu comprends?
Mais j'étais timide,
j'aurais
par contre.
J'aurais pu même être intimidée par toi.
Oui, c'est parce que je pense que je donne moins d'importance aussi à ces moments-là. Ça m'a beaucoup stressé pendant longtemps. Puis c'était pas parce que j'haïs donner des entrevues, là, c'était ça un peu que les gens pensaient, là, mais c'était pas parce que j'haïssais ça, c'est que j'étais super timide, j'avais pas envie de parler de moi. Je trouvais qu'on essayait toujours de ramener un genre d'aura de super naturel autour de moi, là, tu sais, de genre de beau gosse qui mène la grande vie en Europe, puis de, tu sais, puis j'étais comme, c'est pas moi, puis j'arrivais pas à défaire ça. Fait que à un moment donné, j'ai comme fait, ben je vais essayer d'en faire le moins possible. Puis quand je vais en faire, je vais marteler tout le temps les mêmes affaires. Fait que même si j'avais une carrière en France, j'étais pas là à dire c'est extraordinaire ce que je vis. J'étais juste, j'ai envie de rentrer à la maison, moi. J'ai envie de travailler à la maison. Puis c'est vrai, ultimement. Mais tu sais, j'ai quand même, tu sais, dans mon entourage, tout ça, il y avait quand même ce sentiment aussi de pas être là. Tu sais, quand j'étais à Paris, j'étais pas là pour le monde au Québec. Quand j'étais au Québec, j'étais pas là pour toute la partie de ma vie qui se passe à Paris, tous mes chums là-bas, puis tout. Fait que. J'étais un peu déchiré pendant longtemps, puis je pense qu'éventuellement, avec le temps, la famille, je me suis comme déposé, puis je me suis dit, ben, je peux peut-être en faire de la radio, genre, je peux peut-être essayer de faire ça, puis à un moment donné, j'étais devant Mon téléviseur chez nous, mon Dieu, j'ai 80 ans, mon téléviseur cathodique. Mais j'étais devant ma TV chez nous, puis il y a un show qui arrivait, puis j'étais comme, on s'y en est pas, comment ça ils font ce show-là? Puis tout, puis là, en même temps, je me souviens, j'ai dit ça, puis je me suis jugé dans ma tête, je me suis dit, c'est bien facile, t'es chez vous, puis tu penses que tes idées sont bonnes, mais tu fais rien, tu sais. Peut-être que tu pourrais essayer d'en pitcher des idées, puis voir, tu sais, qu'est-ce qui marche ou pas, tu sais. Puis j'ai rencontré Jean-Philippe Mascotte pas longtemps après, puis on s'est mis à pitcher des trucs en TV, puis tout ça. Mais en même temps, moi, à cette heure, même le show le plus poche, qui me parle absolument pas, puis que je trouve mal fait à la limite, je me dis, il y a énormément de travail quand même derrière. Puis même si à la limite, je peux me dire, ah, il y a du monde qui ont coupé les coins ronds, il y a quand même énormément de travail derrière ça. Tu sais, fait que j'ai un certain respect quand même pour tout ce qui se retrouve à la télévision. Même si à la limite, je suis pas d'accord, puis que ça me parle pas, puis je me dis, il pourrait avoir quelque chose de bien meilleur que ça. Il y a quand même tout le temps quelque chose d'intéressant là-dedans.
Je veux revenir sur ta capacité à lire des scénarios, parce que quand Richelieu est arrivé, tu sais, pour avoir vu le film, c'est un film qui est vraiment bon. C'est un premier film aussi.
Le fuck avec les pucheuses, hein. C'est les pleurs pis les cheveux de maïs. Ça colle, cette affaire-là, là, ça bloque la drink. Fait qu'on a pas le choix de mettre une équipe pas mal full-time. Pas de temps à perdre, moi, là.
Il est rough. Mais c'est lui qui a eu l'idée des latinos. C'est à cause de lui si on a de la job. Les gars sont crevés.
Ben, tout bas.
Tu peux pas demander à un de tes temporaires québécois là, de le remplacer.
Il y en a pas de câble qui fait ta 10$ à l'heure.
Je me dis, il faut que t'aies quand même à quelque part des antennes sur la tête pour être capable de dire que c'est la bonne chose. C'est un rôle pour toi, c'est bien écrit. Mm-hmm. Comme tu l'as appris sur le tas, à être capable de bien repérer des projets?
Oui, mais il y a une notion de chance aussi. Tu sais, moi, quand j'ai lu Richelieu, je trouvais que c'était un scénario qui était super bien écrit. Je trouvais ça fort. Habité, il y avait une pertinence sociale aussi. Je trouvais qu'il y avait un propos à défendre. Je trouvais que le personnage était tout en nuances. Tu sais, je pense qu'avec Pierre-Philippe, le réalisateur qui a scénarisé aussi, il y avait beaucoup de craintes par rapport au personnage parce qu'il voulait pas que ce soit juste le méchant. Puis il avait peur qu'on le voit pas. Puis moi, quand je l'ai lu dans le scénario, j'avais l'impression que tout était là. J'ai vu les courts-métrages que Pierre-Philippe a fait, j'y ai parlé, puis tout ça, il m'a parlé un peu de sa vision, puis tout ça. J'y ai fait confiance, tu sais. Après ça, j'aurais pu me retrouver sur le plateau, puis ça se passe pas du tout comme ça, puis le film est vraiment moins bon. Mais j'ai été chanceux, tu sais.
Ça arrive, ça? Qu'on est sur un plateau, puis qu'on sait que finalement, c'est peut-être pas ce qu'on pensait comme projet?
Ah oui, oui, moi, j'ai... il y a un film que j'ai fait qui était sur papier... un grand film, là. Puis après probablement 3 jours de tournage, je me suis dit ça va être excessivement mauvais comme film.
Et ça. C'était mauvais?
Ah oui, c'était pas bon. Mais tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont aimé le film, là. C'est correct. mais c'est pas un dixième de ce que ça aurait pu être. Tu sais, il y avait énormément de problèmes. Il y avait un manque de vision du réalisateur. Puis il y a un manque de détachement aussi émotionnel par rapport à certains personnages. Puis... tu sais, la direction d'acteur, c'est super important. Puis, tu sais, moi, je me dis, peu importe ce qu'on fait, quand tu le fais, ça se peut que ça se retrouve à l'écran. T'sais. Fait que tu essaies de protéger chaque prise. Fait que quand le réalisateur te demande de jouer super gros, puis dans l'après-midi, te demande de jouer super petit, mais à un moment donné, tu te dis, ça fit pas, là. Tu sais, le ton va changer. À un moment donné, il faut assumer quelque chose, un ton, puis y aller. Puis c'est ça qui est arrivé, tu sais, mais il y a eu plein de problèmes aussi, là. Il y avait beaucoup de bisbilles sur le plateau, là. Les gens partaient, puis bon. Mais oui, ça arrive des fois que tout s'effondre, là, mais heureusement, c'est pas arrivé si souvent dans ma vie, là. Tu sais, j'ai quand même été chanceux, j'ai fait des foutus beaux projets. Là.
Mais t'as fait le bye-bye l'année dernière, t'as fait une parodie de Rambo Gauthier.
Nous autres, là, vraiment, devriez nous remercier de défendre votre liberté contre la dictature!
Est-ce que tu penses que ça peut t'amener peut-être à avoir des rôles plus comiques au cinéma? C'est que on pourrait dire « Hey, mon Dieu, on n'avait jamais vu Marc-André Grondin de même. On va l'embarquer dans une comédie. »
Ben j'adorerais ça. Pour vrai, là, j'aimerais beaucoup faire de la comédie. Mais je sais pas, on dirait que les gens s'entêtent à vouloir que je sois vraiment ténébreux. Là. J'aimerais beaucoup en faire de la comédie. Parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Puis j'essaie de toucher à plein de genres dans ma carrière, puis c'est un genre auquel j'ai pas eu la chance de toucher souvent. Fait que... Mais j'ai pas l'impression que du jour au lendemain, les gens vont... Tu sais, à moins que genre que mes amis qui sont scénaristes, réalisateurs, qui me connaissent, pensent à moi pour des rôles.
Mais tu sais qu'on ait pensé à toi pour les affamés, avais-tu été surpris?
Ben, j'ai été surpris que Robin pense à moi. Puis je trouvais ça vraiment le fun que Robin Aubert pense à moi.
Ben, quand t'as joué ce type de rôle-là, justement, quand t'es parti pour faire un film de zombie...
Ben, je pense que tout le monde pensait que je faisais un film mauvais, là. Parce que quand tu fais un film de zombie au Québec, ils sont comme « Hey boy, ça va être poche, là. Ça va être un film de série B, là.
Il y a de la transformation physique aussi. Il y a du maquillage et toutes sortes de bébelles.
Ouais, un peu, mais tu sais, il y avait... En fait, j'ai fini l'imposteur, la saison 1 de l'imposteur, complètement brûlé là, de mon tournage. J'étais dans toutes les scènes. Ça a été vraiment intense. Puis, genre, même pas deux semaines après, je commençais à tourner Les Affamés. Puis Robin était comme... Elle était vraiment brûlée, là, puis tout, mais c'est bon, là, parce que... Parce que le personnage, là, il est brûlé, là, il passe ses journées à marcher, là, il y a des zombies, puis... Fait que, tu sais, garde ça. Il prend pas du mieux pendant le tournage, là, c'est bon. Mais, tu sais, même moi, tu sais, j'avais plein d'espoir pour le film, puis, tu sais, je l'avais lu, puis je connaissais Robin, puis tout ça, mais en même temps, tu sais, c'est quand même touché de faire un film de zombies. Puis Robin, ben, il y a comme Les Affamés qu'il a écrit, il y a Les Affamés qu'il a tourné, puis il y a Les Affamés qu'il a monté. C'est comme trois films différents. Puis, il a écrit un film de zombies. Il a tourné un film poétique. Écoute, il y a plein d'affaires qui ont été coupées, là, mais on marchait, on passait d'une location à une autre dans la forêt, là. On marchait avec le stock, puis t'es comme, OK, attends, OK. Ouais, Bonin, là, c'était mon personnage. Va t'asseoir, là, sur le bord de la rivière, là. Puis là, il demandait à Monia de s'asseoir là, puis à Jean-Michel Lantois de s'asseoir là. Puis là, on faisait comme... Il disait, OK, on va faire une shot de même. On est juste là, assis. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on tendrait de faire? C'est weird. Mais il y avait comme... Mais il filmait pas un film de zombie, tu sais. Il faisait vraiment un... Il faisait une autre sorte de film, tu sais. Puis parce qu'il il shootait pas un film de zombie, mais quand il a monté une rythmique de film un peu plus d'action de genre, ben on tombait pas dans les clichés... Puis on tombait pas dans... Il y avait quelque chose de plus. T'sais. Mais moi-même, en tournant le film, j'avais aucune idée. J'ai fini le tournage, j'ai fait « J'ai aucune idée, ça va être bon ou pas. » J'ai aucune idée.
Est-ce que tu as l'impression que Robin a pu faire ce qu'il voulait avec toi? Parce qu'on lui a parlé.
Ah ouais?
Oui. On lui a parlé avant ton entrevue.
Ça devait être niaiseux, ce qu'il a dit.
Ben, je vais te faire écouter une clip où il parle un peu de tes cheveux. On va écouter.
Je sais pas si vous savez de Marc-André, une affaire que personne ne sait, puis que... Tout le monde sait pareil, mais c'est comme un peu tabou. Il y a eu une certaine époque où Marc-André faisait des rôles avec ses beaux cheveux bruns là, dans le verre. Hein. Puis à un moment donné, ben, tu sais, il a décidé de les raser. Puis la raison qu'il avait donnée, c'était de casser son côté beau gosse. Dans le fond, aussi, la vérité, c'est qu'il cale, quoi. Tu sais, je veux dire. Il y a un ring. Fait que moi, je voulais
qu'il fasse
ses cheveux. Puis, il n'a pas voulu, évidemment. Hein. Fait qu'il a fait pousser ça, là, limite, pour pas qu'on voit le ring. Mais la vérité, c'est que Marc-André a un genou sur la tête.
Je m'attendais pas...
À ça?
Ben oui, je m'attendais à ça.
OK.
Mais sérieusement, Marc-André a un genou sur la tête, c'est extraordinaire comme quote. Je l'avais jamais entendu, puis c'est vraiment ça.
Avez-vous vraiment eu une discussion sur tes cheveux sur le plateau?
En amont, oui, mais au-delà, ben, il y a deux affaires. Premièrement, je tournais l'imposteur, j'étais raccord, fait que j'avais pas le temps de me laisser pousser assez.
Ouais.
Puis, Tudor Nicole aussi avait une discussion là-dessus pour laisser pousser les cheveux. Puis, en fait, j'ai déjà essayé de le faire. Puis, même récemment, j'ai essayé de le faire. Je me suis pas rasé pendant un bon bout de temps, mais j'ai les cheveux super fins. C'est super laid. C'est pas genre un beau ring bien défini de gars. Tu sais, fait que c'est pas ça. Fait que c'est juste. Moins beau que juste le raser, tu sais, fait que... Mais oui, il a pas arrêté de faire des jokes là-dessus. Robin, il était extraordinaire, là. Je l'aime beaucoup, beaucoup, puis c'est un gars incroyablement brillant qui se rend pas compte du talent qu'il a. Il est comme, je suis pas vraiment un acteur, je suis pas vraiment un réalisateur, puis je suis pas vraiment un scénario, il est tout ça, puis il est vraiment bien, mais tu sais, il cale le moteur, puis il est genre... OK, 3, 2, pense à ta calvitie, action! Ou genre 3, 2, pense à la honte que t'as d'habiter à Longueuil. J'habitais à Longueuil à l'époque. À un moment donné, je suis avec Didier Lucien, il dit comme 3, 2, 1, action. OK, vous êtes cousin. On était comme, hein? action. Je comprends. Mais il créait comme plein de moments où on était comme pas préparé. D'un coup, c'est comme s'il cassait tout le temps. Je sais pas si c'était volontaire ou juste parce qu'il aime niaiser, mais le résultat était toujours intéressant. T'sais. J'ai eu vraiment beaucoup de fun avec. J'étais brûlé, là, j'étais vraiment fatigué, mais j'ai eu vraiment beaucoup de fun.
Tu travailles comme producteur à la télé, mais pas en cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire, produire des films?
Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça n'a pas donné encore, mais c'est dans les plans, éventuellement. Je pense qu'il faut trouver le bon projet, la bonne personne. Puis je pense qu'on a... Mais je parle au « on » parce que je travaille beaucoup avec Jean-Philippe Massicotte. Puis, tu sais, je pense qu'on a nos preuves à faire. Je pense qu'il faut montrer une couple de projets. Je pense qu'il faut envoyer un message, montrer ce qui nous intéresse, puis comment on... notre approche, qui est peut-être différente de d'autres, de par nos goûts, puis notre âge. Puis,
ça veut dire quoi, une approche différente?
Ben, tu sais, moi, personnellement, je suis acteur à la base. Là. Fait que, tu sais, je produis pour le plaisir de produire. Je produis parce que j'aime ça, parce que ça vient satisfaire quelque chose. Quand j'ai une idée de rallier des gens autour de cette idée-là puis qu'ils viennent bonifier cette idée-là, ça, c'est très super gratifiant. T'sais, j'ai grandi en regardant du monde travailler, puis je suis fan du talent des autres. Fait que de mettre un peu le meilleur de chaque département ensemble pour créer une équipe, c'est un beau trip.
T'sais, on parlait du casting tantôt, de dire « Hey, je sais pas moi qui pourrait penser à moi pour une comédie, parce que c'est peut-être pas le ouais. une évidence. » Est-ce que toi, tu ferais l'inverse comme producteur, de dire « Hey, on n'ira pas dans un sentier tracé, on va aller penser à des gens qui peut-être nécessairement... rentre pas dans la boîte. »
Oui, oui. Et tant aussi longtemps que le diffuseur a une certaine écoute puis une certaine ouverture, parce que oui, je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés aussi. Ils mettent beaucoup d'argent. Fait que après ça, c'est un jeu de c'est un troc, un peu. C'est OK, ben je te donne quelqu'un de sécurisant pour tout le monde, pour la production aussi, mais laisse-moi quand même pouvoir mettre ce monde-là qu'on connaît pas encore, mais que c'est vraiment les meilleurs, je pense, pour ce rôle-là. On a eu la chance sur notre première série qui s'appelle Danse, qui va sortir éventuellement, d'avoir énormément de confiance de la part des Québécois qui nous ont permis de faire un casting de gens qui n'ont jamais fait de lead de leur vie puis qui sont pas connus du grand public, mais qui étaient les meilleurs acteurs, les meilleures actrices pour faire ces rôles-là. Puis je pense qu'on s'est battu d'une certaine façon pour vendre notre point. Mais il y a eu beaucoup quand même de confiance de leur part. T'sais. Fait que ça n'a pas été si ardu. T'sais.
Est-ce que tu passes encore des auditions, toi?
Pas beaucoup.
Non?
Non. C'est arrivé, par exemple, dans les dernières années, là, mais pour une comédie, justement.
C'est très drôle.
Ouais. Que j'ai pas eu.
T'as pas mais... eu, clairement.
Mais non, pas beaucoup. Mais je suis pas fermé nécessairement. Ça dépend de quoi? Moi, j'haïs ça, les auditions. Je pense qu'il n'y a pas un acteur, une actrice qui aime ça, les auditions. C'est vraiment... excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment en crise d'être devant un mur blanc puis de devoir jouer. Puis... mais il y a quand même quelque chose de sécurisant dans l'audition, dans le processus. Parce que tu commences ton tournage... Le meilleur exemple, c'était l'affaire Dumont. Moi, j'ai fait passer beaucoup de gens en casting, puis on a vu Marilyn Castonguay, puis écoute, Marilyn a dit trois phrases, puis on était comme « Mon Dieu, c'est ça, elle est tellement bonne. » Puis on a commencé le tournage, je sais pas combien de temps après, puis elle, la première journée de tournage, ben, je dis pas qu'elle était pas stressée, là, elle devait l'être, là, mais la première journée de tournage, on avait tous vu c'était quoi le personnage, puis on lui a tous dit « C'est ça le personnage. » Elle savait quoi faire, puis elle savait qu'elle était dans bonne voie. Moi, on m'a offert le rôle. Là. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je savais pas. Puis je me suis dit, il va peut-être regretter. Puis à chaque projet que je commence, qui est un peu, ben pas risqué, mais qui a une certaine prise de risque, tout ça, la première semaine, je me dis, le réalisateur regrette. Vraiment. T'sais.
Tu te dis ça en partant?
Ah, écoute, même sur X-13, là, Yann, je le connais, j'ai fait 2 ans l'imposteur, Joe Decosse, le DOP aussi, était sur l'imposteur, c'est des amis aussi, puis tout ça, puis... Écoute, là, je me disais, j'avais une proposition aussi un peu différente. C'est un ton qui n'est pas un ton habituel à la télé. J'avais vraiment un personnage un peu de composition. Là, puis je me disais, peut-être qu'il se dit, oh non, toi, j'ai le bras dans le tordeur, trop, too late. Genre, mec, je suis pogné avec, là, mais c'est pas vraiment ça. Sur le successeur de, avec Xavier Legrand, écoute, pendant 3 semaines, 1 mois, là, je me suis dit, il doit regretter. Puis j'ai tellement aimé son précédent film, Jusqu'à la garde, puis Denis Ménochet était tellement magistral dans ce film-là, je me suis dit, hey, là, il tombe, là, une coche en bas, là, il tombe avec moi, puis je sais pas si je donne ce qu'il a envie d'avoir, puis je sais pas si... Puis tu sais, je suis pas là à me morfondre chez nous, tu sais, en me pognant les genoux, là, c'est pas ça, mais c'est toujours présent quand même, je doute beaucoup. Éventuellement, on me l'a dit, là, mais tu sais, le fait de pas passer d'audition, ça crée aussi beaucoup ça.
Comment tu l'as trouvé du monde?
Pod, ouais. Ça a été long. Un moment donné, il est venu prendre un verre chez nous à la fin d'une semaine de tournage. Puis on était assis à ma table, puis on jasait. Puis il m'a dit, hey, écoute, je sais pas si le monde va comprendre ce qu'on fait. Puis je sais pas si le monde va aimer ça, mais asti que j'ai du fun. Puis asti que c'est hot ce qu'on est en train de faire. T'sais. Puis j'étais comme,
ça te rassure?
Ben oui.
Mais il a fallu que tu le trouves, le personnage.
Oui.
C'est comment tu l'as trouvé? Les clés, t'es où?
Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise.
Regarde du monde. Regarde, dis-le, on sait que c'est toi.
J'ai été accusé d'un crime.
Et il est revenu sur moi en reprenant le couteau. Et après, il m'a pénétré.
Michel Dumont, c'était spécial parce que je jouais quelqu'un qui existe. Pas juste qui a existé, mais qui existe, qui est dans l'entourage du tournage aussi. Il y a des entrevues avec lui, j'avais plein de matériel à regarder et tout ça, mais en même temps, le public le connaît pas. Fait que, tu sais, je suis pas obligé de faire une imitation de lui. Fait que, tu sais, après ça, c'était de décider qu'est-ce que j'allais chercher qui était pertinent pour raconter cette histoire-là, puis qui était pertinent au personnage, qui racontait quelque chose. Fait que, qu'est-ce que j'allais garder de lui qui était important à mon avis? Puis, écoute, j'avais aucune idée la première semaine. Là, les trois premières journées étaient vraiment difficiles parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais. Puis j'essayais d'en faire le moins possible pour que je me disais si finalement je le trouve, ça va être montable quand même. On va pouvoir monter ces scènes-là quand même sans faire « Ah non, mais ça n'a pas rapport, il joue un autre personnage, tu sais. » Puis je pense que j'osais pas aller dans le physique, tu sais. Je pense que ça a été la grosse différence avec l'affaire du monde, c'est que là, j'ai comme adopté un personnage physiquement. Parce que quasiment toute ma vie, on te demande de dire les lignes pour que ça sonne pas faux, puis on t'habille en Old Navy, puis c'est ça.
Il n'y a pas de grande transformation.
Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que je pense que il y a beaucoup d'acteurs qui font beaucoup de télé et tout ça, mais qui continuent de faire du théâtre parce qu'au théâtre, ils ont la chance de se transformer puis de jouer des rôles de composition et tout ça. Mais de se donner cette liberté-là aussi, puis de se... Parce que moi, j'avais quasiment l'impression que c'était une forme de prétention là, de faire un rôle de composition parce qu'on n'est pas habitué à ça au Québec, on n'en fait pas réellement, tu sais. Tu sais, en comédie, là, tu sais, des cruising bars puis tout, là, tu fais des personnages, mais sinon, en dramatique, non, tu sais, fait que...
J'en perds de 30 livres pour un rôle ou gagner 50 livres pour un rôle.
Ou juste changer. Tu sais, dans l'affaire du monde, il y avait une façon de me tenir que... Tu sais, je trouvais que ça racontait quelque chose, tu sais, Michel, il y avait la mâchoire pognée un peu, puis il y avait quelque chose dans les épaules, puis je me disais, il y a vraiment un stress, physiquement, il y a quelque chose qui transparaît de son récit, tu sais, puis... Je trouvais ça important d'aller le chercher. Puis même dans son ton, sa façon de parler, il y avait une timidité, un manque de confiance, une candeur aussi que je trouvais touchante. Puis je trouvais que ça racontait quelque chose aussi. Puis ça aidait le récit de garder ça de lui. Mais tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire ça, je me disais, c'est too much, là, genre. Puis c'est quand on a fait la scène qui est la scène d'ouverture là, du film, qui est un gros plan. En fait, on a fait plusieurs valeurs, puis on est arrivé au gros, gros plan. Puis Pod est venu me voir après, puis il a dit, moi, j'ai commencé le film avec juste le gros plan. On va dire, c'est ça le personnage, puis voilà. T'sais, on va casser cette affaire-là, de genre, tous les éléments du personnage sont dans cette prise-là, dans cette valeur-là de plan. C'est tellement dans ta face qu'après ça, ben la proposition est acceptée, puis Puis moi, comme spectateur, c'est ce que j'aime aussi. J'aime ça voir des acteurs, des actrices avoir une proposition forte puis le tenir. Parce que la proposition, même si elle est un peu over the top, si tu la tiens vraiment tout le long, elle finit par fonctionner. Parce que tout est possible. Il y a toutes les sortes de personnes qui existent. Fait que ton personnage, il est un peu over the top. J'en croise du monde over the top à longueur de journée. Là. Fait que si tu le tiens bien, on finit par y croire. T'sais.
Qu'est-ce que t'aimes comme cinéma?
Mais tu vois, j'ai vu Vampire humaniste, Cherche suicidaire consentant. J'ai adoré ça. J'étais tellement content de voir un film comme ça. Je me disais, j'aurais aimé ça le réaliser, j'aurais aimé ça le produire, j'aurais aimé ça jouer dedans. J'aurais aimé ça avoir 20 ans puis voir ce film-là puis se faire, hey Chris, il y a du cinéma qui me parle. Genre ouais. Je trouvais ça rafraîchissant à voir. Il y a une super belle direction photo en plus. Une belle direction d'acteur. Tous les acteurs jouent dans le même film. Ils ont tous compris le ton du film, tu sais.
Est-ce que tu trouves que notre cinéma change quand tu vois un film comme Vampire humaniste?
Mais quand je vois cette année, surtout, là, je trouve que c'est une foutue belle année de cinéma quand même. Il y a vraiment plein de belles affaires. Il y a une autre génération aussi, je pense. Là, puis c'est peut-être quelque chose qui me parle plus parce que c'est plus proche de moi. Là, t'sais, mais t'sais, de voir un Richelieu, Vampire humaniste...
Mais tu sais, il y a Solo, il y a le film de Monia Chokri.
Exactement, puis c'est tous des films complètement différents, mais ils racontent tout quelque chose de fort, ils ont toute une proposition forte.
Les films font des sous aussi au cinéma, ça fait longtemps ouais. que c'est pas arrivé.
Puis les films vivent très bien en festival, voyagent beaucoup, gagnent beaucoup de prix. C'est une belle année quand même, je trouve ça le fun. Puis tu sais, j'espère que les institutions vont continuer de faire confiance à des jeunes, puis... Puis il y a des styles aussi différents. Là.
Richelieu en est un.
Ben Richelieu, puis Vampire humaniste, Solo. C'est tous des films qu'il y a 15 ans, ça aurait été vraiment difficile de financer ça. Là, mais je trouve ça le fun. Je trouve que ça nous ouvre vers un cinéma qui est différent, qui est exportable, qui parle à une génération qui va moins au cinéma aussi. Fait que c'est rassurant.
Qu'est-ce qui manque à notre cinéma?
Il manque l'accessibilité, je pense, surtout. Parce que, tu sais, quand l'affaire du moins est sortie, ça n'a pas fait un gros box-office, mais les gens l'ont vu en vidéo sur demande. Les gens l'ont vu dans l'avion, tu sais. C'est même un film que j'aurais pas pensé regarder dans l'avion, c'est l'affaire du monde, mais les gens choisissaient de regarder le film. Fait que c'est pas un manque de curiosité puis d'ouverture. C'est vraiment une accessibilité. Puis, tu sais, moi, je me dis, il faut vraiment qu'on choisisse en tant que société. En télévision, c'est un autre sujet, mais aussi, je pense que ça prend une prise de conscience parce que la télévision puis le cinéma, il faut que ce soit un projet de société. Puis tu sais, je trouve ça complètement dingue que, genre, un film comme Les Affamés joue pas dans toutes les salles au Québec, tu sais. Qu'un film comme Richelieu joue pas dans toutes les salles au Québec. En fait, je trouve ça complètement dingue qu'en tant que société, on finance une industrie, on finance des films, puis on les rend pas accessibles. Pour moi, ça fait pas de sens. Le système doit être repensé parce que tous les films québécois devraient jouer dans chaque cinéma. On devrait pouvoir voir le fruit de nos impôts, tu sais. Puis si je pense que si les films québécois étaient accessibles partout, à un prix peut-être moins élevé, mais les gens iraient les voir, les films. Je pense qu'on a la créativité, le talent de faire n'importe quoi. Sky's the limit, tu sais. Puis oui, il y a des enjeux de budget puis tout, mais à un moment donné, on est dans la réalité qu'on a, fait qu'on fera pas juste chialer qu'il y a pas assez d'argent en cinéma. Il y en a de l'argent, puis je pense qu'on peut faire des belles affaires. On a fait les affamés avec le budget d'un épisode de Walking Dead, là, tu sais. Puis je pense que souvent dans la contrainte, mais ça te force à repenser. Tu sais, Robin, s'il y avait eu 80 millions pour faire Les Affamés, il aurait peut-être fait sauter une tête à chaque deux minutes. Mais quand tu as le budget que tu as, ben, tu peux te permettre juste
une
trois
tête dans
têtes,
le film, ouais, ou une tête.
Fait que tu choisis. Ouais. Fait que tu choisis, ce moment-là va être important. Fait que tu sais, si t'es pour tirer quelqu'un, mais ben, il va tirer sa prof de primaire. Tu sais, il y a comme un enjeu émotionnel. Tout à coup, le film prend une autre dimension. C'est pas juste un slasher, là, tu sais. Fait que tu sais, je pense que dans la contrainte, il peut y avoir quelque chose de créatif vraiment intéressant qui peut se passer. Mais il faut rendre ça accessible, tu sais.
On t'a, tu sais, parlé énormément de la France. Tu l'as dit, la France, c'est un peu un accident de parcours. J'ai jamais demandé d'aller travailler en France. Le Canada anglais, par contre, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Quand on regarde les Karine Vanasse, Caroline Davernas, Laurence Leboeuf, qui travaillent en anglais, en français, qui vont aller chercher du travail? C'est-tu parce que ton anglais est bon? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire?
Oui, beaucoup, mais je pense que j'ai eu un rendez-vous manqué avec le Canada anglais à plein de moments. Il y a eu plein de moments où on m'a offert des choses, mais j'étais déjà embarqué sur un autre truc, puis il y a des conflits d'horaires qui faisaient en sorte que je ne pouvais pas accepter. Mais oui, il y a quelque chose de super intéressant dans le Canada anglais, autant en cinéma qu'en télé. Je pense qu'il y a beaucoup plus de télé qui viennent chercher des Québécois que du cinéma. Non, en tout cas.
J'ai l'impression que tous les acteurs veulent avoir une carrière en France puis aux États-Unis, puis toi, t'es comme, c'est pas grave, j'y tiens pas, je veux travailler au Québec, tu l'as mentionné mille fois.
Moi, tant aussi longtemps que je gagne bien ma vie, puis je fais des projets le fun, puis que j'ai du plaisir à faire ce que je fais, puis que je suis proche de ma famille aussi, hein, tu sais. Tu sais, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça prenait à rien pour que j'aille faire un film en France, là. J'avais pas de blonde, pas d'enfant, tu sais, j'avais 22 ans, je vivais dans mes valises, j'étais bien heureux de même. Maintenant, si on m'offre un tournage de 3 mois en France, il faut vraiment que j'aie un énorme coup de cœur pour partir loin de ma famille pendant 3 mois. Là. Puis, tu sais, j'ai pas une blonde scénariste qui travaille de la maison puis qui peut me suivre à la limite avec les enfants puis tout. Là. On a nos vies. Ma blonde, elle travaille ici. On a des trucs. Moi, j'ai une fille en garde partagée. Il y a comme toute cette complexité-là aussi familiale qui fait en sorte que je partirai pas pour rien, tu sais. J'ai eu la chance de vivre quand même des choses extraordinaires dans ma vingtaine. Ma carrière aurait pu se terminer à 27 ans, puis j'aurais vécu des choses que très peu de gens ont la chance de vivre. Fait que moi, je suis très satisfait de ça, puis je m'apprête à tourner dans une série, là. J'ai une couple de journées de tournage, puis je vais avoir autant de plaisir que si j'allais faire une couple de journées de tournage à LA sur une grosse série. Ça change pas grand-chose au final, tu sais, c'est...
Tourner dans une autre langue, comme on parlait de l'anglais, est-ce que c'est quelque chose qui te met en danger? C'est-tu plus stressant?
Ben, c'est sûr que c'est plus demandant, là, tu sais. Surtout au début, quand j'ai fait Spotless en Angleterre, là... Les deux premières semaines étaient peut-être plus ardues, mais tu sais, quand ça fait 6 mois que tu tournes, parce qu'en plus, on tournait beaucoup, là, on avait beaucoup de journées de tournage pour chaque épisode. Quand tu arrives à la fin du 6 mois, ils te rajoutent une scène en fin de journée, tu allies une fois au make-up, puis tu peux la faire. Là. Fait que, à un moment donné, tu vis en anglais aussi. Fait que...
Puis tournant en espagnol, mettons.
En espagnol, mon Dieu, Seigneur!
Quand t'as fait Che.
Ah, Seigneur! La seule fois que j'ai tremblé sur un plateau.
Pour vrai?
Ouais. Je suis parti en avion, j'ai fait Montréal-Paris. Puis je m'en allais tourner en Espagne. Puis je savais que j'allais tourner en arrivant. Fait que je faisais Montréal-Paris, puis je prenais un autre vol pour genre Madrid. Il y a un char qui venait me chercher. Il m'emmenait à l'hôtel. Je droppais ma valise. Le gars m'attendait dans le corps de porte. J'embarquais dans le char. J'arrivais sur le plateau. Puis j'étais à la dernière scène de la journée. Puis c'était... Eux autres, ils tournaient 2 films. La partie 1, la partie 2. Fait que c'était dans la partie 2. Fait que ça faisait déjà eux autres 6 mois qu'ils tournaient. Fin de journée. Soleil se couche. J'arrive. J'ai appris mon texte, je parle pas espagnol, mais j'ai appris mon texte, tu sais, puis j'arrive là, jet-lagué, fatigué, perdu, je m'en vais au CCM faire l'essayage costume, maquillage, puis là, il y a le gars qui comme le genre de responsable des accents, puis tout ça, qui me dit hey, « je suis vraiment content que tu sois là, écoute, on s'en va au CCM tout de suite. » Par contre, le texte a changé, puis je suis comme ben, « tu viens de me tuer, le texte a changé, je peux pas rien faire. » Non, ça va bien aller, il me donne les nouvelles. Là, j'apprends ça pendant que... Écoute, je me souviens, je suis en arrière du rideau, j'ai le texte là, puis je lis le texte pendant que j'essaye des pantalons, puis tout. Puis là, j'apprends mes lignes, puis là, il me fly, je m'en vais en plein milieu du bois, puis tout, j'arrive. C'est Steven Soderbergh, c'est Benicio del Toro, c'est plein d'acteurs du monde latin bien connus.
Je ris, mais...
Puis c'est une scène genre à 3 ou 4, je sais pas trop, puis là, je suis là, puis c'est la dernière scène, ils tournent en plus... Genre à 2 caméras, Steven Soderbergh fait la caméra B, c'est les 2 prototypes de Red, c'est le premier projet shooté en Red, plein d'affaires, gros plateau, je pense que c'était genre le premier assistant de Scorsese en plus là-dessus. Peu importe, je suis là juste comme déphasé, j'ai pas dormi. Je sais mes lignes, mais je me dis, la scène commence, je me dis, je sais pas quand les dire, je comprends pas ce qu'ils disent. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un petit silence, je suis comme... Puis là, quelqu'un embarque, puis je suis comme, non, c'est pas moi, si. Je suis content qu'il y ait un long silence, puis quelqu'un fasse comme... Puis là, je dis ma ligne, puis hostie, puis je te jure, j'avais la main qui shakait un peu de fatigue aussi, mais de stress. Puis je me suis rendu compte que je faisais ça, puis je me suis dit, ah non, hostie, je suis ce gars-là qui stresse sur un plateau. Puis j'ai tellement vu souvent du monde être nerveux à shaker sur un plateau. J'étais comme, hey non, Chris, on fait une vue, là. C'est pas stressant, là. C'est l'endroit où je suis le plus à l'aise sur un plateau. Puis j'avais la main dans les poches parce que je voulais pas voir que j'avais la main qui shakait. Puis on a fini par faire la scène. Puis Steven Soderbergh, il me dit, hey, en passant, c'est correct, là. J'ai tout ce qu'il me faut, monter ça, pas de problème. Puis les Soneto, il a fait comme. Tu sais, tout le monde le savait que je parlais pas espagnol. Fait que, tu sais, tout le monde était quand même indulgent, là. Tout le monde était super fin à la fin. Il était comme. Ça va, puis tout. Puis je suis parti. Puis finalement, j'ai tout refait la scène en ADR. Ils ont tout changé le texte. Puis genre, on me voit même pas parler finalement parce qu'il fallait refaire d'autres répliques. Parce que ça fitait plus dans. Les choix de mots fitaient pas avec le langage de. En tout cas, j'ai tout refait les scènes en ADR finalement. Ouais. Mais j'ai tellement été stressé. Puis après ça, finalement, ils m'ont dit la deuxième journée, je devais aller là pour comme 4-5 jours. Puis ils m'ont dit, hey, on n'a pas pensé, il faut que tu sois présent dans le camp. Fait que tu peux-tu rester 2 semaines pour faire de la figuration? Mais oui.
Fait que t'as passé 2 semaines avec
pas de
Benicio.
Pas de blonde, pas d'enfant.
Pas de blonde, ben ouais, pas d'enfant. Benicio
aux cartes,
en fond.
Ouais, c'est ça, à jouer aux cartes, puis avec d'autres acteurs. Puis, ouais.
En terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta carrière, dans ta vie comme comédien, comme producteur?
Ben que ça s'arrête pas. T'sais, moi, j'ai envie de continuer à faire ça. J'ai envie de produire des choses. J'ai envie de faire...
Réaliser, peut-être, non?
Pas pour le moment.
Non? OK.
Non, moi, je suis vraiment heureux à produire. J'ai envie de produire de plus en plus, faire de la fiction. J'ai envie qu'il y ait une jeune génération aussi de scénaristes qui viennent me voir puis qui se disent, hey, moi, j'ai envie de faire de quoi avec lui. Ça arrive déjà, des fois, des gens qui se disent, moi, j'aime les choix qu'il fait. Fait que peut-être qu'on va bien s'entendre. Puis il serait peut-être un bon producteur. C'est sûr que j'ai une oreille différente parce que je viens de l'autre bord, moi, de la caméra. Mais oui, moi, je me souhaite surtout de continuer à faire des beaux projets, de jouer encore un peu.
Oui, c'est ça, mais tu vois vraiment une fin au jeu?
Non, non, non,
genre,
non.
Non, OK.
Mais je tu sais, ultimement, je voudrais faire un beau projet par année puis produire. Parce que, tu sais, là, j'ai enchaîné beaucoup d'affaires dans les dernières années. Puis, tu sais, quand tu tournes de nuit puis de jour, tu as des meetings puis tout, c'est ça. Je veux pas la vie de Louis Morissette. Là. Je sais pas comment il fait, lui, de faire de l'écriture, de la scénarisation, running business, faire un one-man show, jouer en plus. J'ai pas cette énergie-là, moi.
Ça a été vraiment agréable de passer cette heure-là en ta compagnie.
C'était plaisir.
On va remettre ça. Tu vas être encore plus ouvert.
Ouais, c'est ça. M'a braillé la prochaine fois, c'est ça.
Puis peut-être que tu vas avoir fait une comédie. Je te le souhaite tellement.
Ben écoute, ce serait le fun. On pourrait se dire ça. Si je fais une comédie, je reviens t'en parler.
Parfait, merci. Parfait. Merci d'avoir été avec nous. Pour réécouter les épisodes, allez sur Spotify, Google Podcast, Apple Music et sur les plateformes de Cogeco. Sortez le Popcorn est une production de Push-Up Media, à la réalisation Fred Perron, au mix sonore Olivier Couture, à la recherche et à la production de contenu Stéphanie Gagnon, à la coordination Béatrice Langlois-Bété, au design graphique Simon Lagneau, à la vidéographie Studio Campus, aux communications numériques et promotion Sandrine Couture. C'était votre animatrice Catherine Beauchamp qui vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sortez le Popcorn.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.